Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Et la fin de la garde à vue pour Michel Platini.
Très tard cette nuit, ça fait mal, reconnaît l'ancien numéro 10 des Bleus qui balaye les soupçons de corruption, vous l'entendrez. Une plainte contre la justice dans l'affaire de l'instituteur de Villefontaine. Une victime présumée reproche au parquet de ne pas avoir inscrit ce directeur d'école soupçonné de multiples viols sur le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans l'actualité, les enquêteurs à la recherche d'éventuels complices après l'arrestation du chauffard de Lorient. Et puis Donald Trump qui a lancé officiellement sa campagne pour la présidentielle de 2020 cette nuit en Floride.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec le foot féminin.
La footballeuse est un footballeur comme les autres.
De météo, 17h.
Un temps orageux cet après-midi à Brou en Eure-et-Loire sous une température de 24 degrés.
RTL Matin.
Michel Platini est donc ressorti libre cette nuit après une journée de garde à vue.
L'ex-patron de l'UEFA a été longuement interrogé. La justice enquête sur des soupçons de corruption lors de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Y a-t-il eu des consignes direct à l'Élysée pour orienter le vote au cours d'un déjeuner quelques semaines avant le scrutin en 2010. Michel Platini n'avait pas attendu la fin de son audition pour publier un communiqué dans lequel il se dit totalement étranger à tout cela. Et hier soir, vers 1h du matin, il a pris la parole à sa sortie des locaux de la PJ de Nanterre.
Alors que je devais arriver comme auditeur libre, je suis arrivé, on me met tout de suite en garde à vue. Ça fait mal quoi, hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. Mais bon après, ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. C'est une affaire qui est vieille, vous la connaissez, on l'a expliqué. Je me suis toujours exprimé en pleine transparence dans tous les journaux. Et voilà, ben ça continue, ils font des enquêtes, ils cherchent. Aujourd'hui c'est un peu spécial quand même.
Michel Platini, propos recueillis pour RTL par Nicolas Burnand. Le chauffard de Lorient a exprimé des regrets au cours de sa garde à vue. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir s'il a bénéficié de complicité dans sa fuite. Le jeune homme de 20 ans a été arrêté hier matin après 9 jours de cavale. Il a été mis en examen hier soir pour homicide involontaire aggravé. Sur le papier, il risque donc 10 ans de prison.
La justice française, visée par une plainte dans l'affaire du directeur d'école de Villefontaine.
L'enseignant qui était soupçonné d'avoir violé des dizaines d'élèves s'est suicidé en prison en avril 2016. Par le passé, il avait déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques, mais le parquet n'avait pas inscrit cette condamnation dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Une faute, selon l'une de ses victimes présumées que vous avez rencontrées pour RTL, Serge Peillot.
Sarah a été l'une des premières victimes de l'instituteur pédophile. En 2003, elle avait 6 ans lorsqu'elle a été agressée sexuellement dans son école de Vénissieux dans le Rhône. En 2008, l'enseignant est condamné une première fois pour détention d'images pédophiles. Et c'est parce que Romain Farina n'a pas été inscrit à l'époque au fichier des auteurs d'infractions sexuelles que Sarah a décidé de porter plainte contre la justice, car pour elle, des dizaines d'autres victimes aurait pu ensuite être évité.
On les a vraiment laissés dans la gueule de loin. Je suis vraiment, vraiment en colère. En 2008, ils avaient trouvé des images pédopornographiques dans ses ordinateurs. Il avait été condamné. Il n'y a pas eu de suite. Il a continué à exercer. Je pense que ça aurait été déclaré, il n'y aurait pas eu ça. Je suis écœurée par la négligence des institutions. Ils ont des comptes à rendre pour ces 14 ans d'années d'agression, de viol. Clairement, on l'a laissé. On n'a rien fait. On a fermé les yeux. Moi, je ne compte pas lâcher. J'ai eu une agression sexuelle à mes 6 ans. C'est douloureux de vivre avec ça. Est-ce que je garderai ça à vie, toujours? C'est un grand traumatisme. Ça restera toujours.
D'autres plaintes de familles de victimes, cette fois contre l'État, l'éducation nationale, devraient suivre.
Serge Puyot à Grenoble pour RTL. La légalisation du cannabis fait l'objet d'une nouvelle proposition de loi, un texte soutenu par plusieurs députés, dont certains dans les rangs de la majorité. Ils prônent la création d'une société nationale qui aurait le monopole de la production et de la vente. L'objectif serait d'assurer un meilleur suivi sanitaire des consommateurs, mais aussi de récupérer des taxes, comme c'est le cas pour le tabac.
Faut-il légaliser le cannabis? On en débat tous ensemble depuis 4h30 au 32-10. Ce sera aussi notre débat à 8h20 sur RTL avec l'un des signataires de la proposition, le député François-Michel Lambert, et face à lui, Frédéric Pechenard, vice-président Les Républicains du Conseil Régional d'Île-de-France, mais aussi ancien directeur général de la police nationale.
Et à propos de drogue, aux États-Unis, une saisie historique de cocaïne. Ça a été dévoilé cette nuit. 16 tonnes, au total 16 tonnes, réparties dans 7 conteneurs. La drogue se trouvait à bord d'un cargo dans le port de Philadelphie, il y en a pour plus d'un milliard de dollars.
L'autre image de la nuit aux États-Unis, elle nous vient de Floride.
Donald Trump devant ses plus fidèles partisans à Orlando. Je me tiens devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat dans la continuité de 2016. Son slogan sera « Keep America Great », gardez la grandeur de l'Amérique. Le scrutin se tiendra début novembre 2020. Au Royaume-Uni, Boris Johnson se rapproche un peu plus de Downing Street. L'ancien maire de Londres, partisan d'un Brexit dur, a conforté son avance lors du deuxième vote des députés du Parti conservateur, c'était hier soir. La procédure de désignation du successeur de Theresa May au poste de Premier ministre va encore durer plusieurs semaines.
RTL 6h35, à peine dévoilée, la réforme de l'assurance chômage fait l'unanimité contre elle.
Les syndicats de cadres notamment dénoncent l'instauration d'indemnités dégressives pour les salariés qui gagnent plus de 4 500 euros. Leurs allocations diminueront drastiquement au bout de 7 mois. Le patronat, quant à lui, critique la taxation des contrats courts et, dans les couloirs de l'Assemblée, même la gauche est dubitative sur ce sujet, Marie Mollet.
Oui, une mesure d'affichage et hypocrite pour le député LFI Adrien Quatennens. Le gouvernement, dit-il, fait semblant d'aider les précaires alors qu'il a lui-même favorisé les contrats courts.
C'est ce gouvernement qui a mis sur pied le CDD d'usage, le CDI de chantier. On lutte en s'attaquant au recours abusif aux contrats courts, pas par un bonus-malus mais par sa limitation pour faire du CDI la règle.
Et puis la mesure est trop timide pour le patron des députés PS Olivier Faure. Certains secteurs très gourmands en contrats courts sont épargnés.
C'est seulement pour quelques secteurs d'activité dont on exclut, par exemple, bâtiments et travaux publics, qui en abusent plus qu'un peu. Je ne comprends pas quel est l'objectif qu'elle sert, sinon faire des économies sur le dos des chômeurs.
Et puis à droite, on a d'autres griefs. On dénonce un système qui punit les entreprises, la carotte et le bâton. Damien Abad est député LR.
On alourdit les charges sur les entreprises. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souhaitent avoir des contrats courts, qui souhaitent avoir des intérims. Et c'est ça la réalité aujourd'hui de la situation économique.
Le bonus-malus, un outil efficace pour lutter contre la précarité, se défend le gouvernement. Mais toute l'opposition dénonce la méthode adoptée par décret et sans accord avec les partenaires sociaux.
Merci Marie Mollet.
Et Laurent Berger, comme tous les leaders de syndicats, est très remonté après les annonces d'hier. Le secrétaire général de la CFDT sera l'invité d'Elisabeth Martichoux. Ce sera tout à l'heure à 7h45 sur RTL. On en parle depuis le début de la semaine. On en parle encore ce matin avec l'excellente Marina. Quelle chaleur!
Oh oui, et même si les orages arrivent, il fait bon être en vacances cette semaine. Ça arrive à certains. Par exemple, sur la Côte Basque, il a fait 34 degrés hier à Saint-Jean-de-Luz, Denis Grandjoux.
Oui, sous un soleil de plomb sur la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, la petite Maëlys s'affaire à construire
un château.
Aurélien et Émilie, papa et maman, savourent l'instant les yeux fixés vers le large.
On vient de Dunkerque, on voulait découvrir le Pays Basque, le temps est magnifique.
Vous imaginez que ça allait être l'été, avant l'été finalement?
Non, pas vraiment. On l'espérait en tout cas avoir le beau temps, mais c'est sûr que c'est agréable.
Derrière son comptoir en bois, face à l'océan, Élise, elle, mixe ses smoothies.
Vous demandez quand c'est que ça allait commencer, c'est sûr, parce que presque fin juin, donc à un moment, on attendait tous. Mais bon, là, ça y est.
À une dizaine de kilomètres de là, Michel vient de garer son camping-car sur la route de la Corniche, tout près d'Andaille. Il se régale.
C'est formidable, on a une vue exceptionnelle sur la Côte Basque et le Pays Basque.
Un temps de rêve qui fait que même à la radio, on a l'image.
Un beau ciel bleu, une mer calme.
Des bateaux qui passent.
Des bateaux qui passent. Elle est pas belle la vie ?
Aussi, elle est belle.
Bah oui, elle est belle. Voilà. C'est un temps à aller faire du paddle sur la Seine.
Mais par exemple,
Jérôme.
Mais bien sûr.
Jérôme qui paddle.